Sarah est docteure en philosophie et spécialiste d'esthétique. Elle est responsable du programme Politique des images à la Fondation Maison des sciences de l'homme et elle enseigne la théorie de l'art à l'Université Paris 8. Alors, ses recherches, on va le voir, portent sur les rapports entre art, philosophie et psychanalyse, et surtout, c'est ce qui va nous intéresser notamment, sur le rapport entre la mémoire et les images. Alors, elle a publié de nombreux articles et dans les livres. Alors, je le lis,
Le stéréoscope de Proust, photographie, peinture et fantasmagorie. Ça serait le stéréoscope de Proust, photographie, peinture et fantasmagorie dans la recherche proustienne. Voilà. Mais il est en italien, pour l'instant.
Oui, on attend la traduction avec impatience. L'image feuilletée, photographie et mémoire de Proust, qui est un ouvrage en préparation et donc qu'on espère voir paraître prochainement. Voilà. Donc je précise aussi que Sarah est une grande passeuse de nombreux auteurs du français vers l'italien et que ça aussi c'est une part importante de ton travail. Tu as gardé ton titre aussi ?
J'ai gardé mon titre.
Très bien, donc à toi de jouer. Voilà.
Merci Anne et Marielle pour non seulement pour l'invitation mais surtout pour cette belle initiative que je trouve vraiment être rendre justice à Proust parce que rappelons-le, la recherche se termine dans le temps et je pense que c'est important au-delà de ce qu'on peut encore parfois entendre sur les résurrections extratemporelles, de la situer aussi dans le temps, et c'est ce qu'on a vu faire aujourd'hui. Je trouve que c'est très savoureux de voir précisément où se situe ce grand livre. Donc je me réjouis aussi de la création du Pôle Proust, que justement je pense ça sera un cadre très valorisant aussi pour toutes les recherches proustiennes actuelles. Donc aujourd'hui je me lance un peu dans un nouveau chantier, donc je prends un risque, je vous demande donc de être indulgent s'il y a encore des ajustements à faire, parce que je me retrouve à articuler deux pistes qui sont déjà assez connues chez Proust, mais qui n'ont jamais été, du moins à ma connaissance, articulées entre elles. C'est-à-dire, d'un côté, évidemment, l'influence et la passion, donc l'influence de la photographie dans la recherche proustienne, et la passion de Proust pour la photographie, et de l'autre côté, l'influence du milieu médical dans la recherche proustienne. Donc aujourd'hui, j'essaierai d'articuler ces deux pistes, ces deux chemins, un peu comme celui de Swann et de Guermantes, et de voir s'ils se rejoignent bien quelque part. Je pense qu'on pourra voir qu'il y a quand même sûrement des résonances et des influences entre ces deux choses-là. Donc, par rapport à Proust et la photographie, je ne vais pas vraiment m'appesantir là-dessus parce que c'est quand même un sentier, un chemin qui a été pas mal exploré dans les 20 dernières années. Je rappelle juste pour rendre justice aussi aux auteurs qui ont travaillé sur ça, deux titres qui me semblent incontournables parus en langue française, donc Marcel Proust sous l'emprise de la photographie de Bressane et Proust et la photographie de Jean-François Chevrier. Évidemment, la photographie, pour Proust, n'est pas qu'un loisir ou un intérêt purement esthétique. Bien au contraire, je la considère comme cela, l'écriture proustienne, c'est une chose que, évidemment, Walter Benjamin a très bien vue, l'écriture proustienne, le graphein proustien, est fortement influencé dans son essence par le photographein, par la photographie, par cette écriture de lumière qui prenait aussi rapidement pied. Proust s'intéressa à toutes les techniques photographiques qui lui étaient contemporaines. Au-delà des photographiques, disons, simples, qui sont quand même très nombreuses dans la recherche, l'écrivain ne néglige pas de faire allusion à ces techniques destinées à des usages particuliers comme la stéréoscopie, la chronophotographie, la photographie judiciaire et les portraits composites. la recherche, en somme, et je le montrerai plus dans les détails pendant mon exposé, la recherche est en somme fille de cette extraordinaire effervescence du visible qui a lieu à la fin du XIXe siècle. Quant à lui, Proust, il est fils d'une autre tradition et d'une autre science. Le père de Marcel, donc vous le connaissez, c'est Adrien Proust. Ici, on a un portrait d'académicien du docteur Adrien Proust, était un éminent médecin qui était passé d'une origine de petit bourgeois de province au statut de notable parisien. Il occupe à partir de 1885 la chaire d'hygiène à la faculté de médecine de Paris. Il est un habile praticien et un fin diplomate et politique. Il crée l'Office international d'hygiène, ancêtre de l'Organisation mondiale de la santé d'aujourd'hui. Il dirige une collection, ça Barbara Carnevali l'a rappelé ce matin, nommée Bibliothèque d'hygiène thérapeutique, dont les volumes allaient alimenter les lectures du jeune Proust, qui se sentait sûrement concerné par des volumes tels que l'hygiène du dyspeptique, l'hygiène des asthmatiques ou encore, plus troublant, l'hygiène du neurasthénique de 1897. Chez les Proust, donc, c'est toute la médecine de son temps qui défile. En plus des traités de son père, Proust consulte dans la bibliothèque de famille de nombreux autres ouvrages sur les affections nerveuses, paru en grande quantité dans la décennie 1890-1900. Les recherches de Charcot sont bien connues à Marcel, grâce au père, évidemment, qui avait consigné, entre autres, un document ministériel, justement, sur des sujets d'hygiène, mais aussi grâce à la mondanité. N'oublions pas que, quand même, les mardis de Charcot sont un événement mondain et presque théâtral. Que les spectaculaires leçons du mardi attirent autour du médecin. Rappelons par exemple la famille Daudet, hein, qui était quand même très proche et de Proust et de Charcot. Donc, voyons ici la peinture d'une leçon de Charcot à la Salpêtrière de 1885. L'hystérie imprime une marque profonde dans l'écriture de la recherche, comme déjà Gilles Deleuze avait su le voir dans Proust et les cygnes. Je cite Deleuze, « Tout symptôme est parole, mais d'abord toutes les paroles sont des symptômes. » Et il cite Proust, « Les paroles elles-mêmes ne me renseignaient qu'à condition d'être interprétées à la façon d'un afflux de sang à la figure d'une personne qui se trouble. » Et Deleuze continue, on ne s'étonnera pas que l'hystérique fasse parler son corps et retrouve un langage premier, le vrai langage des symboles et des hiéroglyphes. Son corps est en Égypte, les mimiques de Madame Verdurin, sa peur que sa mâchoire ne se décroche, ses attitudes artistes qui ressemblent à celles du sommeil, son nez gomenolé, forme un alphabet pour les initiés. Donc, tout un corps alphabet, hein, quelque part, qu'on retrouve chez Proust. Au cours de ces séances, Charcot déclenche par hypnose des spectaculaires crises chez ses patients. Les femmes constituent l'essentiel des hystériques, évidemment. Même s'il faut rappeler que Charcot affirme que la maladie n'est point leur privilège. Sur le corps des patientes, Charcot dessine donc les zones hystérogènes, en particulier dans le bas-ventre. Car il en est convaincu, je cite Charcot, le corps ovulaire douloureux, d'où partent les irradiations des l'aura hystérique spontanée ou provoquée, et bien l'ovaire lui-même. Donc l'aura hystérique, hein, associée à cette partie du bas-ventre de la femme. Ce que Charcot appelle aura est un ensemble des signes annonciateurs de la crise. Mais nous ne pouvons pas ignorer ce caractère éminemment visible, et je dirais même photographique, que le mot aura implique. C'est que, en reprenant la formule de Georges de Lieberman dans l'invention de l'hystérie, dans l'iconographie photographique de la Salpêtrière, tout y est, je cite, pose, crise, cri, attitude passionnelle, tout semble y être, parce que la situation photographique cristallisait idéalement le lien du fantasme hystérique et du fantasme du savoir. Une réciproque du charme s'instaura, médecin insatiable des images de l'hystérie, hystérique, toute consentante, surenchérissant même en théâtralité des corps. Cet ensemble très varié de symptômes qui se place sous le nom d'hystérie semble donc révéler, grâce à son caractère oratique, son lien avec la photographie. Je vous montre, voilà, là c'est début d'attaque, autrement appelé aussi aura hystérique. Photographie et hystérie seraient-elles alors deux manières d'appareiller à la fin du 19e siècle, je cite Walter Benjamin, l'unique apparition d'un lointain, quelle que soit sa proximité, selon la définition que Walter Benjamin donne de l'aura. En effet, si c'est vrai que pour Benjamin, l'aura est ce qui est à risque dans la photographie, il est néanmoins également vrai que certaines photographies, ou peut-être mieux quelque chose dans la photographie, sont des lieux privilégiés pour l'apparition de l'aura. Walter Benjamin aussi le reconnaît. Je cite des passages où la question est claire. Dans l'expression fugitive d'un visage d'homme, les anciennes photographies font place à l'aura, une dernière fois. C'est ce qui leur donne cette mélancolique beauté, qu'on ne peut comparer à rien d'autre. Mais aura, désignée aussi au XIXe siècle, comme le rappelle encore une fois Georges Lieberman, un certain problème technique de la photographie, et pas des moindres. C'est le problème des auréoles et des voiles, tous ces phénomènes lumineux ou paralumineux qui nimbaient accidentellement, sans qu'on sache encore trop pourquoi, tel sujet photographié. Ce problème était-il relatif à une trop venue du lointain dans l'image? Vous savez bien qu'au début, la photographie à ses débuts s'associe à des phénomènes, hein, ce qu'en italien on appelle des phénomènes da baraccone, des phénomènes presque de cirque, hein, oui, de foire, exactement. C'est-à-dire, on avait tendance à y voir du surnaturel, à voir des phénomènes spirites, la venue des esprits, des fantômes, hein, des revenants. Donc, là aussi, il y a la question de l'aura qui intervient. Si l'aura est bien, et je cite encore Benjamin, une singulière trame d'espace et de temps, l'unique apparition d'un lointain, si proche soit-il, la photographie, pour sa vocation à faire commerce avec les esprits, les revenants, les spectres, dans son avoir à faire toujours avec le retour du mort, pour citer Roland Barthes, est alors lieu privilégié de l'apparition de l'aura. Mais que l'on ne croit pas que ça soit juste une histoire de charlatan. À la fin du 19e siècle, nombre de médecins semblent courir auprès de ce rêve de capture de l'aura. D'ailleurs, celui d'aura est un mot bien connu à la médecine. Depuis Galien, l'aura est un souffle qui traverse le corps au moment où celui-ci va se trouver plongé dans le pâtir et dans la crise. Le cabinet photographique créé par Charcot et par Albert Londe à la Salpêtrière semble donc poursuivre ce rêve. À la fin du 19e siècle, le développement de la médecine et celui des arts sont tous les deux bouleversés par la venue de nouvelles techniques d'exploration et de reproduction du visible. Il suffit de rappeler la chronique nécrologique que Freud consacre à Charcot en 1893, où il ne le définit pas un penseur, mais un visuel, un voyant. Comme le fait remarquer Monique Sicard dans son beau texte 1895, l'image écartelée entre voir et savoir, je cite, « Le 28 décembre 1895 a lieu la découverte des rayons X. Même jour, au soir, première projection publique payante du cinématographe des Frères Lumière. Les premières images pénètrent à l'intérieur de la vie. Les deuxièmes donnent une illusion de vie aux images. » L'écriture, le graphène de la recherche, ne passe pas indemne à ces nouvelles formes d'inscription dans le visible. Toute l'imagerie médicale de sa jeunesse est convoquée par Proust dans l'écriture de la recherche. Au fond, ne devons-nous pas prendre plus au sérieux la confidence que Proust fit à la comtesse de Noailles en lui disant qu'il allait écrire un livre sur les médecins? Et là, je commence, j'essaierai de traiter des types d'images plus spécifiques, donc des techniques d'image qui ont accompagné donc, l'époque de Proust et comment on les retrouve aussi dans la recherche. Certains ont remarqué combien les pages proustiennes, en particulier les volumes, parce que c'est extrêmement dynamique et accéléré des jeunes filles, ressentent de l'influence d'une nouvelle forme de visibilité pratiquée par les avant-gardes. On a cité en particulier le futurisme, le cubisme. Mais nous pouvons, a fortiori, y voir l'influence de ce processus de morcellisation dans les documents que vous avez distribués avec les textes de Bourdieu, lui aussi soulignait ce mouvement-là. Donc, des morcellisations du mouvement appliquées par cette, et je cite l'expression de Maurice Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit, qui définit rêverie zénonienne sur le mouvement, la chronophotographie. Donc, la chronophotographie, vous le savez, c'est une technique inventée par Muybridge et utilisée en France par Étienne Jules Marais pour décomposer et étudier le mouvement des êtres vivants et qui avait été adoptée aussi à la Salpêtrière pour étudier les évolutions des crises hystériques par Albert Londres. Les images de la chronophotographie se prêtent particulièrement bien à donner consistance à ce phénomène de fragmentation de la perception et du sujet dans le temps qui accompagne toute la recherche. Beaucoup de spécialistes ont déjà travaillé sur cet aspect et beaucoup de passages de Proust, surtout sur Albertine, la perception d'Albertine, mettent en lumière ce phénomène. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur ces épisodes-là. Avec la chronophotographie, comme le note Michel Friseau, le temps travaille les formes et les structures de l'image. C'est l'action efficace du temps qui est rendue visible dans l'inscription de l'image pour la chronophotographie et par l'inscription de la parole pour l'écriture proustienne. Je vous montre juste, on peut lire ensemble un court passage où cela me semble particulièrement évident. Tout être se déforme tout le long de son trajet dans l'abîme où il est lancé. Abîme dont nous ne pouvons exprimer la direction que par des comparaisons également vaines, puisque nous ne pouvons les emprunter qu'au monde de l'espace, et qui, que nous les orientons dans le sens de l'élévation, de la longueur ou de la profondeur, ont comme seul avantage de nous faire sentir que cette dimension inconcevable et sensible existe. Donc, vous voyez là, c'est clair que cette, entre-là, pour reprendre un mot merleau-pontien, d'espace-temps, c'est ce que intéresse à Proust de la chronophotographie. Étienne Jules Marais veut contester le modèle oculaire. Dégagé du préjugé de l'infaillibilité des sens, la science a cherché d'autres auxiliaires pour la recherche de la vérité. Les affirmations de Marais nous rappellent celles de l'écrivain Proust qui, dans une lettre très connue, comparait le travail de l'écrivain à celui d'un télescope qui permettrait de faire apparaître des choses invisibles à l'œil nu. Au fond, dans la chronophotographie aussi, il y a ce rêve, ce fantasme de montrer quelque chose qui échapperait à l'œil nu. Mais nous pourrons aussi le comparer à celui d'un appareil photographique qui permettrait à l'invisible de se faire visible grâce à sa capacité de le fixer sur un support matériel, la plaque évidemment pour le photographe, le papier pour l'écrivain. Et c'est le corps prestigieux et privilégié de Saint-Loup, on l'a vu donc ce matin, ce corps qui ne semble pas touché par la lourdeur, la pesanteur, l'opacité qui plombe habituellement les corps de la recherche, qui fait rentrer en scène tout l'athlétisme dont fait preuve la chronophotographie. Tout à coup, alors j'espère avoir le... Voilà, il est là. Tout à coup, comme apparaît au ciel un phénomène astral, je vis des corps ovoïdes prendre avec une rapidité vertigineuse toutes les positions qui leur permettraient de composer. Devant sa loupe, une instable constellation. Lancés comme par une fronde, ils me semblèrent être au moins au nombre de 7. Ce n'était pourtant que les deux points de Saint-Loup, multipliés par leur vitesse, à changer de place dans cet ensemble en apparence idéale et décoratif. Mais cette pièce d'artifice n'était qu'une roulée qu'administrait Saint-Loup et dont le caractère agressif au lieu d'esthétique me fut d'abord révélé par l'aspect du monsieur médiocrement habillé, lequel parut perdre à la fois toute contenance, une mâchoire et beaucoup de sang. Comme l'écrit donc Valérie Dupuis, l'écriture devient ici véritablement instrument d'optique, en nous donnant à voir ce que nous ne percevons généralement que de façon grossière. Il faut cependant remarquer qu'en 1895, la chronophotographie commence à décliner, supplantée par le cinéma, évidemment. Albert Land, au département de photographie de la Salpêtrière, commence à délaisser la chronophotographie pour les rayons X. Chez Proust, nous trouvons souvent des allusions à cette jeune technique médicale. D'abord, Proust fait de l'ironie sur ce phénomène à la mode, en laissant parler la gouvernante Françoise, fière d'être à la page et de parler de cette nouvelle technique médicale. En s'adressant à la mère du héros, François dit « Madame, c'est tout. Madame est pire que les rayons X. » Elle disait X avec une difficulté affectée et un sourire pour se railler elle-même, ignorante, d'employer ce terme savant. Rayon X, continue Françoise, qu'on a fait venir pour Madame Octave et qui voit ce que vous avez dans le cœur. L'affirmation de Françoise n'est qu'à moitié l'expression d'une naïveté populaire. Hippolyte Baraduc, à l'époque médecin reconnu par les plus hautes institutions à la fin du XIXe siècle, nomme iconographie et ailleurs radiographie la faculté que possède l'aura de se manifester sur les épreuves. Il déclare pouvoir, et je cite, « photographier les émotions humaines ». Et cela nous fera sourire, peut-être en pensant à certaines affirmations de neurosciences. Baraduc publie le traité « L'âme humaine, ses mouvements, ses lumières et l'iconographie de l'invisible fluidique » où, s'il ne s'agissait pas de voir le cœur, comme le disait la gouvernante Françoise, on visait tout de même à voir l'âme. Les rayons X reviennent à maintes reprises dans le roman proustien, avec une intention parfois moins ironique. Je rappelle un des passages qui est quand même très connu, mais qui est important pour l'écrivain. La force de pénétration des rayons X, auquel l'écrivain fait souvent allusion, ne semble mener à aucune célébration de la clarté ou de la transparence, bien au contraire. À ce propos, donc, il y a un célèbre passage où le narrateur conteste la force de pénétration du regard des Goncourt, c'est-à-dire la force d'observation du regard des Goncourt, et il oppose donc sa force de pénétration de son regard. Donc, aussi le charme apparent, copiable des êtres, m'échappait parce que je n'avais pas la faculté de m'arrêter à lui, comme un chirurgien qui, sous le poli d'un ventre de femme, verrait le mal interne qui le ronge. J'avais beau dîner en ville, je ne voyais pas les convives. Parce que, quand je croyais les regarder, je les radiographiais. Goncourt savait écouter comme il savait voir. Je ne le savais pas. La radiographie nous offre habituellement une image à la fois transparente et négative. Négative puisqu'elle renverse le rapport entre visible et invisible. Transparente puisqu'elle éclaircit ce qui était resté jusque-là opaque. Si nous retrouvons encore dans le passage cité l'inversion entre visible et invisible, la transparence normalement attribuée à l'image radiographique ne va cependant pas de soi. Au contraire, on dirait que la force de pénétration du regard radiographique, au lieu d'éclaircir, génère encore plus de confusion et d'opacité. Le mythe de la transparence, qui hante l'imaginaire optique du XIXe siècle, recèle le désir d'effacer toute particularité et toute différence liée aux existences contingentes. L'image au rayon X, dans son utilisation médicale, nous offre précisément cela, encore dans sa généralité anatomique. Les photographies de Francis Galton sont l'emblème de cet homme transparent et composite révélé par la médecine et la psychologie du XIXe siècle. Les portraits composites de Galton, superposés sur une même image photographique, des visages d'individus différents appartenant au même groupe ethnique ou familial, ou encore ici social. Hein, c'est les médecins d'un club, je me souviens, voilà, le Pieta Dinner Club. Et donc, vous avez les différents portraits, et au milieu, comme une moyenne des traits somatiques qui devaient faire ressortir le type idéal. Donc, au milieu, vous avez le médecin, hein, le type médecin idéal. Dans la superposition des différences étaient progressivement effacées pour laisser les différences étaient progressivement effacées pour laisser surgir par transparence une sorte d'image génotypique ou archétypique. Dans cette image qui ne garde que le semblable, il est particulièrement évident que grâce à la transparence, on a l'impression que l'identité particulière et contingente se dissout au profit d'une structure générale et originaire, qu'elle soit génos, race ou type. Rappelons-le que les recherches de Galton ont aussi servi à la définition du type criminel. Telles sont donc les implications idéologiques du mythe de la transparence. Chez Proust, cette structure générale et originaire obtenue par transparence est cependant ce qui oppose résistance. Le corps radiographié est encore plus confus que le corps phénoménal. Mais il y a cependant au moins un passage de la recherche où Proust pense sans aucun doute au processus photographique de Galton, et ce en vue de rechercher une sorte d'image originaire. Je vous montre le passage, c'est vraiment frappant. Plus tard, en regardant Robert de Saint-Loup, encore une fois, qui est vraiment le personnage photographique de la recherche, je m'aperçus que lui aussi était un peu comme une photographie de sa tante. Et par un mystère presque aussi émouvant pour moi, puisque si sa figure à lui n'avait pas été directement produite par sa figure à elle, toutes deux avaient cependant une origine commune. Les traits de la duchesse de Guermantes, qui étaient épinglés dans ma vision de Combray, le nez, un bec de faucon, les yeux perçants, semblaient avoir servi aussi à découper la figure de Robert, presque superposable à celle de sa tante. Je regardais sur lui avec envie ces traits caractéristiques des Guermantes, de cette race restée si particulière au milieu du monde, où elle ne se perd pas et où elle reste isolée dans sa gloire divinement ornithologique, car elle semble issue aux âges de la mythologie, de l'union d'une déesse et d'un oiseau. Hein, donc ici, on retrouve un lieu de manière très proustienne et en même temps étonnante, un lieu d'un discours sociologique, un discours ornithologique. Mmh. Donc, il classe donc cette famille selon des modalités zoologiques. Ce passage s'inspire à l'évidence des procédés photographiques de Galton, à travers lesquels Proust fait allusion au rêve d'une origine et d'une identité pure, l'origine commune, la race isolée des Guermantes, qui trouve ses présupposés matériels dans cette image obtenue par transparence. La photographie a d'ailleurs toujours eu un rapport privilégié avec la quête des origines et avec la capacité de révéler, et Roland Barthes écrit dans son profond essai de la photographie, La photographie peut révéler, au sens chimique du terme, mais ce qu'elle révèle est une certaine persistance de l'espèce. À la mort du prince de Polignac, Proust dit que son visage était resté celui de son lignage, antérieur à son âme individuelle. Donc ici encore, hein, on rejoint ce que Anne disait par rapport à cette temporalité. Ici, évidemment, pré-biographique, mais peut-être on peut imaginer de faire encore un pas en arrière et imaginer une temporalité pré-humaine, presque.
Oui.
Mais ce qui est implicite dans les photographies de Galton, ainsi que dans celles de Land à la Salpêtrière, est leur pouvoir normatif. Il s'agit de classer, de créer des types, des espèces. Derrida disait, dans son hommage sur Barthes, où il fait une très belle réflexion sur la photographie, « La photographie ne tend plus à aucune ressemblance particulière, mais elle crée du semblable. » Pour reprendre donc la réflexion de Barthes, hein, on dirait que la photographie pratique une singulière reductio ad unum, qu'elle tend à une conformité socio-représentative du sujet. Barthes le dit encore autrement. Au fond, une photo ressemble à n'importe qui, sauf à celui qu'elle représente, car la ressemblance renvoie à l'identité d'un sujet, chose dérisoire, purement civile, pénale même. Elle le donne en tant que lui-même, alors que je veux un sujet tel qu'un lui-même. La ressemblance me laisse insatisfait et comme sceptique. C'est peut-être l'une des pistes de lecture du séminaire que Barthes souhaitait donner au Collège de France et qui avait pour objet l'étude du corpus des photographies des supposés modèles des personnages de la recherche. Et Barthes se demande dans les notes pour ce cours, est-ce que le social se lit sur les photographies ? Et il poursuit avec la description des traits qui relève de ce qu'on pourrait appeler, pour citer Barbara Carnevali, une véritable esthétique sociale. Il dit « La morphologie des visages renvoie à l'idée de distinction. » Ici encore, on rejoint aussi certaines thématiques de Bourdieu. « La trace sociale classique des vêtements et la trace plus subtile de la pose. » Il donne l'exemple de Laure Eman, Le gestus de la demi-mondaine, distinguée, douce et réservée aux sentiments supérieurs. Et si les photographies donnent les coordonnées sociales des supposés modèles réels de la recherche, il n'en va pas autrement pour les personnages de fiction. Il suffira de citer ici le cas de Gilberte, l'une des nombreuses filles parricides de la recherche, qui semble avoir tout fait pour renier et oublier le nom du père, le juif Swann. Elle lui inflige post-mortem les pires ignominies, en prenant d'abord le nom de l'ancien amant ainsi que nouveau mari de sa mère, Forcheville, pour ensuite se glisser dans cet espace apparemment socialement inaccessible du faubourg Saint-Germain. Je rappelle que ni elle ni la mère étaient reçues pendant que Swann était en vie. Et pourtant, nous savons que chez Proust, on échappe difficilement au passé, a fortiori s'il s'agit d'un passé refoulé. C'est ainsi que la judéité de Gilberte fait retour, et ce, grâce à la photographie. Gilberte, qui se fait juive, sans le savoir, en imitant les photographies de Rachel, actrice sans véritable talent et maîtresse de son mari, Robert de Saint-Loup. Le cliché social, le cliché esthétique et le cliché photographique s'articulent pour former ce que Benjamin aurait appelé un inconscient optique de la photographie et qui permet, comme tout inconscient, au refoulé de revenir. En effet, je lis le passage, et en effet, j'avais été frappée d'une vague ressemblance qu'on pouvait à la rigueur trouver maintenant entre elles, entre Gilberte et Jean-Rachel. Peut-être tenait-elle à une similitude réelle de quelques traits dus par exemple à l'origine hébraïque, pourtant si peu marquée chez Gilberte, à cause de laquelle Robert, quand sa famille avait voulu qu'il se marie, s'était senti attiré vers Gilberte. Elle tenait aussi à ce que Gilberte, ayant surpris des photographies de Rachel, cherchait, pour plaire à Robert, à imiter certaines habitudes chères à l'actrice, comme d'avoir toujours des nœuds rouges dans les cheveux, un ruban de velours noir au bras et se teignant les cheveux pour paraître brune. puis sentant que ses chagrins lui donnaient mauvaise mine, elle essayait d'y remédier. Si la photographie a donc chez Proust à la fois fonction de révélateur du temps, avec un grand T, c'est le temps atavique et inconscient, elle a également la fonction de révélateur du monde social et de son ordre constitué, parfois non sans ironie. Les planches des hystériques à la Salpêtrière et celles des types de Francis Galton ne sont d'ailleurs sans rappeler les images pénales conçues par Alphonse Bertillon. Ici, vous avez le portrait du fameux voleur de la Joconde qui avait ramené la Joconde en Italie. Donc, je me suis permise de la mettre ici. donc les images des hystériques et de Francis Galton ne sont pas sans rappeler les images pénales conçues par Alphonse Bertillon, chef du service photographique de la police à partir de 1882. Ici, nous avons un analogone sur échelle criminelle de ces poses qui, selon Barthes, faisaient la distinction. La pose de face et de profil, l'outillage spécifique pour l'obtenir, l'outil pour tenir la tête, le cadre préformaté, bref, toute la panoplie de ce que Barthes appelait la nature pénale de la photographie. Au fond, comme l'écrit Proust peu après la terrible suite d'erreurs médicales qui précède la mort de la grand-mère, chez le prêtre, comme chez l'aliéniste, il y a toujours quelque chose d'un juge d'instruction. Et en effet, si chez Proust on peut retrouver encore palpable ce désir de se situer pour l'écrivain entre le médecin, l'aliéniste et le juge d'instruction, c'est dans le souhait d'arriver à écrire la maladie, la folie et le vice en essayant de faire disparaître les individus au profit d'une logique plus générale et grande où le monde social apparaisse lui aussi, pour ainsi dire, dans le temps. C'est une sorte de monde social submergé et inconscient où l'écrivain médecin a pour tâche de rendre conscient ses forces et ses flux inconscients, ou alors où l'écrivain juge d'instruction se doit de rendre visible, pour reprendre les formules de Proust, ce qui était resté jusque-là invisible. Merci.
Prendre le temps de quelques questions avant la dernière intervention, celle de Philippe Chardin. Merci beaucoup pour cette intervention. Ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'ambivalence de la photographie quant à la question de la ressemblance et du portrait. La photographie, en fait, ne fait pas portrait chez Proust. Elle renvoie, je pense à ce qu'il disait à propos des portraits d'époque du 19e siècle avec les gens en moustache, etc. Il disait que ça ne rend pas compte du portrait d'un individu, ça rend compte du portrait d'une époque, et c'est finalement aussi contemporain qu'un bond de chemin de fer, etc. Donc la photographie ne peint pas un individu, il peint un type, Gilbert Juive, il peint une époque. Il peint une ressemblance non assumée chez Gilbert, une altérité. Et comme autre type d'exemple d'altérité de la photographie, je pense aussi à la photographie de la grand-mère. Qu'est-ce qu'il voit ? Il ne voit pas sa grand-mère, il voit une vieille femme, évidemment, dans les arrêts sur image. Donc c'est très étonnant ce rapport entre la photo et la non-ressemblance de soi à soi, d'une part. Et la deuxième chose aussi qui me frappait, c'est que je crois qu'il y a une autre modalité du rayon X dans la recherche. Alors il y a évidemment le rayon X en lui-même, il y a le regard proustien, qui est un regard qui radiographie, et puis il y a le sommeil, avec ce passage où Proust dit qu'à travers le sommeil, il peut accéder aux viscères mystérieusement, les viscères deviennent mystérieusement translucides. Donc voilà, il me semble que tout ça, c'est des relations oscopiques qui permettent de dépasser finalement l'enveloppe corporelle, encore une fois.
En effet, ce que tu disais à propos de la photographie et de la ressemblance, bon, je pense que chez Proust, c'est vraiment très très intéressant et il y a encore des choses à dire malgré tout, malgré qu'il y ait beaucoup de travaux déjà là-dessus. Mais c'est un phénomène, en effet, bon, Proust arrache la photographie à les lieux communs qu'il voudrait, et même Barthes ne, dans la suite de son essai La Chambre claire, comment dire, montre que le ça a été, c'est beaucoup plus complexe, ce n'est pas un instant figé, c'est complètement le punctum, c'est le temps chez Barthes. Et en effet, chez Proust, il y a vraiment un développement de la photographie dans le temps, c'est-à-dire que les images photographiques, les photographies faites, sont toujours dans une dynamique temporelle. Et ce que tu disais, c'est que quand on voit un portrait, peut-être les contemporains voyaient évidemment autre chose. Et nous, on a ce regard qui nous permet de voir l'espèce, qui nous permet de voir la généralité. Un phénomène qu'on peut constater dans notre expérience quotidienne, c'est que toutes les mères ou les grand-mères dans les photos de leur jeunesse nous semblent merveilleuses, mais parce qu'il y a une sorte de conformité aux icônes pour lesquelles, je pense, on capte en fait les éléments qui les rendent iconiques. Et donc, il semblerait que dans les années 50, toutes les femmes étaient magnifiques. Donc il y a une sorte d'effacement, là encore, de certains éléments qui... Voilà.
Erika Fulop.
Je veux juste une petite remarque, votre réflexion sur la question de la ressemblance par rapport à la photographie, ça me fait penser justement à cette fameuse métaphore de Proust selon laquelle la recherche de la vérité se fait comme développer des clichés qu'on aurait pris avant et il fallait développer. Donc n'est-ce pas paradoxal du coup de comparer la recherche de la vérité ou ce processus de déchiffrement au développement ce qu'on fait de la photographie. Si la photographie ne ressemble pas à la réalité, alors l'écriture en tant que processus de déchiffrement,
Oui.
si on le compare à la photographie, du coup, ça se renverse aussi, parce que du coup, ça devient autre chose, comme disait Deleuze, que Pompé n'a jamais existé. C'est une autre image qu'on développe. Du coup, c'est paradoxal et plus régulateur encore que Proust ne pensait peut-être.
Je pense.
Oui, ben, en effet, Proust a fait allusion vraiment très souvent à la photographie et avec des valences, des significations très différentes. Il y a aussi des passages où, voilà, très souvent d'ailleurs, où la photographie est vraiment méprisée et n'a pas de valeur véritative, heuristique. Mais dans le passage que vous évoquez, je pense qu'il y a aussi toute une autre réflexion sur le rapport à la mémoire. Donc en effet, et aussi un aspect de la photographie qui est souligné par Proust, qui est encore une fois ce besoin du temps. Pour la photographie, du moins dès l'époque, le facteur temps était ce qui permettait aussi à la photographie de se révéler. Et donc il associe par exemple la mémoire à une chambre noire intérieure, où les souvenirs se développent. Donc il y a quelque chose comme le besoin d'ombre aussi, qui s'oppose aussi à ce qui serait apparent dans la photographie, qu'il y a une écriture de lumière. Donc c'est ce besoin que Benjamin associe à l'oubli, dans la valeur que l'oubli a dans la mémoire proustienne, si on fait une sorte de translation sur le plan visible, on pourrait le faire correspondre aussi au besoin d'ombre et de vide aussi, d'invisible, dont la mémoire a besoin pour se révéler. Donc je pense que là, Proust est pensé peut-être à ça.
Oui, Barbara.
Pour boucler là, c'est pas sûr, dans l'histoire médicale et son rapport à l'imaginaire et aux moyens de captation. Je rappelle que l'essai de Léon Daudet sur la mélancolie, où il, justement, l'ami de famille de Proust, donc il a question beaucoup, tous les exemples qu'il donne dans cet essai, beaucoup d'exemples sont liés à la recherche, et qui, justement, en état médecin, réfléchit sur les concepts d'ambiance et d'aura. Il donne cette très belle définition que je vais citer parce que ça fait voir la. les rapports à la question aussi de la passion, de l'expression de la passion. Il écrit « L'aura est un souffle, étymologiquement, une atmosphère, un état particulier qui accompagne tous les mouvements, toutes les crises, toutes les modifications profondes, tous les imprévus soudains de ces choses fragiles qui la personnalité. » C'est-à-dire l'aura, c'est comme dans la crise épileptique ou la crise justement hystérique, est la mise en ambiance, c'est le passage de l'âme à un état passionnel différent avec une sorte d'énergie qui se développe et qui l'a fait soit monter, soit régresser dans l'intensité de sa passion. Et bon, c'est intéressant de voir comment justement quelqu'un qui était lié déjà au milieu des châteaux et qui connaît très bien Proust relit la réflexion à la Il n'y a pas de questions.
Non, c'était très bien. C'est... Bon. Merci beaucoup, Sarah.